Je m'appelle Jérémy Crépel, je suis enseignant en lettres, histoire, géographie et élu à la ville de Lille, écologiste.
Donc l'écologie vous préoccupe, l'état de la planète bien sûr, mais aussi de manière plus proche, en proximité, il y a tous ces problèmes qu'on a peut-être évacués un peu rapidement il y a quelques années et qui maintenant nous reviennent en pleine face, notamment celui de la ressource en eau et de sa qualité.
Oui, alors justement, ce problème de la ressource en eau, il est crucial pour la métropole européenne de Lille, puisque nous faisons face avec la pollution et le dérèglement climatique, à la fois à une menace sur la quantité d'eau qu'on peut prélever dans nos ressources, dans notre nappe phréatique, et sur la qualité de l'eau. Et en plus, les deux sont conjugués, parce que quand les quantités baissent, la qualité a tendance à se dégrader aussi.
Alors on est dans une période où le dérèglement climatique, on peut appeler ça comme ça peut-être, limite un peu la quantité d'eau qui se déverse sur le sol. Il y a aussi le problème des sols qui absorbent plus ou moins bien ces eaux et qui on ne sait pas trop où elles se retrouvent. Donc la captation de l'eau et notamment de l'eau de qualité, ce n'est pas facile. Il y a aussi l'épuisement de cette eau, notamment dans les nappes phréatiques, par une industrie qui va pomper cette eau pour ses propres besoins. Et nous, je pense qu'en tant que citoyens, il faut aussi qu'elle soit partagée, cette eau, en termes de ressources et qu'on ait tous accès à une eau de qualité.
Oui, alors pour cela, en fait, il y a plusieurs moyens d'action et il y en a qui ont déjà été entrepris par la métropole européenne de Lille, notamment grâce à la politique des communes gardiennes de l'eau. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain nombre de communes qui sont situées au sud de Lille, qui sont sur le territoire dans lequel l'eau qui arrive, c'est celle qui va arriver dans notre robinet par l'intermédiaire de la nappe phréatique. Et donc c'est là qu'on va protéger les sols pour faire en sorte et que l'eau puisse s'infiltrer. Donc là, il faut limiter l'artificialisation des sols, donc ne plus construire. Et c'est aussi pour la qualité, donc éviter les pollutions. Donc ça veut dire favoriser, par exemple, une agriculture sans intrants, une agriculture biologique. C'est réduire la circulation automobile parce que tout ce qui va être rejeté de l'automobile va à un moment donné partir avec les eaux de pluie et finir dans la nappe phréatique. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a en amont de la production. Et puis en aval, c'est aussi l'entretien de notre réseau d'eau, par exemple, pour éviter les fuites. Et donc ça, c'est une politique qui incombe aussi à la métropole européenne de Lille.
Donc pour ces villes gardiennes de l'eau, elles ont peut-être des charges supérieures à d'autres villes. Comment on compense pour qu'elles aient leur propre équilibre économique?
Alors là, c'est tout le nœud du problème, parce que ça veut dire que on va demander à des communes, à tout un ensemble de territoires, de ne plus aller sur le développement classique. Et par exemple, au plan local d'urbanisme intercommunal, on a gelé des projets de construction de zones économiques où on voulait installer des entreprises pour ne pas artificialiser ces sols. Et donc, ça veut dire qu'on a dit à des communes, par exemple, comme Seclin, bah non, là, vous arrêtez votre développement économique, vous n'avez plus le droit que construire sur vous-même. Et le problème qui se pose, c'est que derrière, il faut donner des contreparties si on veut que ça fonctionne. Alors, il y a, à l'époque, on a dit, on va vous inventer un nouveau mode de développement qui est basé sur le patrimoine naturel. Alors, c'est vrai, par exemple, il y a le parc Mosaïque à Santes sur l'agriculteur biologique, etc. Mais je pense qu'on n'est pas allé assez loin. Il faut en plus qu'il y ait une sorte de contrat entre les zones qui bénéficient, donc la ville, et les zones qui ont des contraintes, et là c'est essentiellement la zone périurbaine ou rurale, et qu'on leur rende aussi des services. Et par exemple, j'ai été choqué qu'on décide de ne pas construire le tram jusqu'à Seclin, en disant à Seclin, ben non, il ne va pas y avoir assez de demandes. Ben, moi je pense qu'en contrepartie aux efforts qu'on demande à la ville de Seclin pour protéger la ressource en eau, on doit leur garantir un accès facilité au cœur de la métropole, donc à Lille, avec un tramway pour pouvoir aller facilement travailler, faire ses courses, etc., puisqu'on va bloquer le développement économique de Seclin pour cette ressource en eau.
Donc, j'ai entendu le responsable de la FNSEA en région qui exprimait l'idée que, lui, il respecte les réglementations et que si ce qu'il faisait n'était pas adapté, il fallait les revoir et donc que c'est bien le rôle du politique que de décider ce qu'on peut faire ou pas dans un territoire.
Alors, je peux l'entendre d'un agriculteur lambda, pas d'un responsable de la FNSEA, qui met tout en place pour essayer d'empêcher les normes d'être contraignantes. Et je me souviens de la présidente nationale de la FNSEA qui a essayé de profiter de la crise en Ukraine pour faire diminuer les normes sur l'agriculture. Il ne faut quand même pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes. La réalité, c'est qu'avec le dérèglement climatique, on a besoin de changer les pratiques agricoles. Par exemple, on a besoin d'aller vers des espèces qui demandent moins d'eau, moins d'irrigation, parce que l'eau, on risque d'en avoir moins et qu'il faut l'économiser. On a besoin d'aller sur des pratiques qui soient moins monolithiques, c'est-à-dire par exemple avoir du couvert végétaux qui va permettre de garder l'eau dans les sols, d'avoir de la polyculture qui va permettre que les plantes se nourrissent elles-mêmes, se protègent elles-mêmes contre différentes espèces, parfois invasibles, par exemple la culture de la betterave et le problème du puceron. On sait que la polyculture, ça protège davantage contre le puceron parce qu'on peut mettre en place des plantes qui vont l'éloigner à côté des betteraves. Bon, mais ça, pour ça, il faut changer de pratique culturelle, alors qu'on a un monde agricole qui a tendance à nous dire « Oh là là, si vous ne nous donnez pas un autre produit miracle que celui qu'on a déjà, on ne peut pas changer. »
Donc, pour l'agriculture, on va dire, industrielle, hein, il y a aussi l'idée que utiliser les produits chimiques autorisés, c'est nécessaire. Il n'y a pas, disent-ils, de compétences particulières des agriculteurs en termes de science pour avoir leur propre volonté de modifier ce qui est pour eux une solution, sinon une facilité.
Bon, d'abord, encore une fois, je l'entends des agriculteurs individuels, pas forcément de ceux qui sont organisés en lobby pour empêcher de mettre des normes. Mais c'est vrai qu'il y a le rôle du politique, c'est exactement ça, c'est d'impulser, avec la Chambre d'agriculture aussi, d'impulser ces changements de pratiques, c'est d'impulser aussi des marchés, des organisations économiques qui vont permettre d'aller vers un autre modèle. Je prends un exemple. La région Hauts-de-France, elle a en charge les lycées. On peut impulser dans les cantines des lycées le fait qu'il y ait davantage de repas végétariens, par exemple, parce que le bétail, ça consomme plus d'eau que le végétal, de faire en sorte qu'il y ait de l'achat local, mais aussi de l'achat bio. Or, on a un problème, par exemple, dans les Hauts-de-France, c'est que l'agriculture bio ne se développe pas, que les agriculteurs n'ont pas d'appétence pour aller vers le bio. C'est une des régions où il y a le moins de surfaces converties en bio en France. Et du coup, on est obligé d'importer de la nourriture bio vers les Hauts-de-France parce qu'il n'y a pas assez de production. Donc là, c'est aussi le rôle de la région, c'est le rôle du département, c'est le rôle de la MEL, c'est le rôle de la Chambre d'agriculture d'essayer d'organiser le modèle économique vers un modèle qui soit meilleur. Deuxième chose, c'est aussi le rôle des plans locaux d'urbanisme et de ce qu'on appelle les baux environnementaux qui peuvent aussi favoriser donc la conversion des agriculteurs, par exemple, vers le bio quand le département, la MEL, possède des terrains, de leur demander de mettre en place des cultures qui préservent l'environnement en contrepartie de cet accès au terrain.
Dans un monde idéal, toutes les collectivités, de la plus petite, la commune, on peut dire, à peut-être l'Europe, qui sait, devraient avoir une philosophie commune et des pratiques cohérentes. On en est loin ?
Quand je vois, par exemple, qu'il y a des tentatives de développer des bassines dans les Hauts-de-France, alors qu'il vaudrait mieux développer, par exemple, des prairies humides qui sont vraiment le moyen naturel de garder l'eau et d'éviter, comme j'entends, d'aller jusqu'à la mer. Il n'y a pas justement cette impulsion donnée par la région pour que les agriculteurs puissent se convertir en bio. Quand j'entends aussi parfois des agriculteurs qui me racontent que les aides de l'Europe, ils ne les ont touchées qu'une fois qu'ils étaient déjà convertis en bio, alors que ce qu'ils avaient besoin, c'est de trésorerie au moment du passage au bio. Eh bien, effectivement, on a encore des progrès à faire et tout ça, il faut mettre tout le monde autour de la table tout le temps, sans cesse, pour faire progresser les pratiques et pour faire progresser aussi les processus administratifs parfois.